On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur France Bleu comme tous les soirs pour votre émission de confidence. Et ce soir, on va plonger dans l'univers magique des livres. Magique parce qu'ils permettent de s'évader, de rêver, parce qu'ils nous font grandir, parce qu'ils nous accompagnent au fil du temps. Ils nous inspirent, ils nous rassurent, ils nous consolent parfois aussi. Est-ce que vous avez comme ça un livre ou des livres qui vous ont fait du bien? Quel est votre rapport aux livres? Qui sont les auteurs qui vous accompagnent au fil du temps? Et qu'est-ce qu'on fait d'un livre une fois qu'on l'a lu? On va parler de tout ça avec vous jusqu'à 22h en compagnie de Christina Pellet-Douel, journaliste à Psychologie Magazine en charge des livres, mais aussi grande lectrice. Bonsoir Christina.
Bonsoir.
Vous venez de sortir ces livres qui nous font du bien, Invitation à la bibliothérapie, c'est chez Marabout. Et la couverture de votre livre résume tout à fait ce qu'un livre peut nous apporter. On ouvre un livre et c'est une explosion de couleurs. C'est vraiment ça, un livre, parfois ça explose, ça illumine, ça
oui,
ensoleille la vie.
Ça illumine, ça change la vie, ça change le regard qu'on porte sur la vie, qu'on porte sur soi-même, qu'on porte sur les autres. Oui, bien sûr, un livre, c'est tout un univers. Alors, pas tous, hein, je vous rassure.
Oui, pas
certains,
tous.
Non.
Hein, la bibliothérapie, ce terme-là, il est assez récent en France, mais en fait, finalement, on a tous déjà expérimenté la bibliothérapie.
Mais oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, les livres nous soignent, mais ils ne savent pas qu'ils nous soignent. Alors, on a découvert qu'ils étaient capables de nous soigner. C'est venu des États-Unis, comme souvent les thérapies un peu alternatives, dirons-nous. Enfin, celles qui accompagnent les thérapies, on va dire, plus sérieuses. Plus institutionnel. Et ce terme est apparu après la guerre de 14 aux États-Unis parce que, un grand nombre, c'était la première fois dans l'histoire en tout cas, que les hôpitaux étaient submergés de blessés qui n'étaient pas forcément des blessés physiques, mais qui étaient des blessés psychiques, des blessés de l'âme, ce qu'on appelle maintenant les gens qui ont subi un stress post-traumatique. Mais à l'époque, en 1918 et depuis le début de la guerre, on ne savait pas du tout ce genre de choses. Or, il y a une bibliothécaire absolument géniale et méconnue totalement. Il faudrait lui ériger un monument. Je ne sais pas d'ailleurs s'il n'y en a pas un en Alabama à sa mémoire. Cette infirmière géniale a eu l'intuition... infirmière d'ailleurs, elle était bibliothécaire, je dis infirmière,
ah oui,
c'est
le
une erreur.
Elle était révélateur.
Oui, révélateur. Mmh. Elle était bibliothécaire et infirmière de l'âme en fait, parce qu'elle était bibliothécaire dans cet hôpital militaire qui a accueilli des blessés donc après la guerre de 14. Et elle a eu cette intuition que les livres pouvaient aider ces malades, ces blessés à se sentir mieux, à aller mieux. Elle a créé des cercles thérapeutiques. C'est absolument génial.
Il y a même
génial.
Eu un enseignement. Après, on aura peut-être l'occasion. De...
Mais surtout, elle a eu cette idée que la lecture, et en particulier la lecture à haute voix, pouvait permettre d'apaiser certaines choses.
Eh bien, on va parler de tout ça avec vous. Donnez-nous des exemples très concrets de livres qui vous ont fait du bien, qui vous ont aidé à traverser des épreuves difficiles dans votre vie, qui vous ont ouvert d'autres voies. Vous vous êtes dit, en refermant un livre, je vais changer de vie. Ça a changé complètement votre façon de voir les choses. On vous attend dès maintenant au Standard de France Bleu. Ces livres qui nous font du bien. C'est le titre du livre de notre grand témoin et c'est aussi le thème de l'émission ce soir.
Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Et ce soir, on se dit tout fait la part belle aux livres, les livres qui nous font du bien. Il y a des livres comme ça qui changent la vie, qui apaisent, qui font du bien, qui nous révèlent, qui nous réveillent aussi, qui apaisent nos douleurs et nos peines, qui nous donnent envie d'avancer, de créer, qui donnent de la force. Quel est ce livre chez vous? Pourquoi il vous fait du bien? On en parle ce soir et on vous donne la parole au 0810 055 056 avec la journaliste électrice Christina Pellet-Douel, auteure de ces livres qui nous font du bien aux éditions Marabout. Et on va démarrer l'émission avec Gérard en région parisienne. Bonsoir Gérard.
Oui, bonsoir Vanessa et puis bonsoir à votre invité.
Bonsoir. Vous allez nous parler de David Foenkinos et de la délicatesse.
Ah oui, tout à fait. C'est un livre que j'ai absolument adoré, quoi, parce que je trouve que quand on lit ce livre, on se rend compte, bah, justement à l'approche de la Saint-Valentin, que tout est possible, quoi. On se dit, en fin de compte, ça sort un petit peu des histoires d'amour, ça sort un peu des sentiers battus. Là, c'est cette personne qui va tomber, qui va essuyer d'abord un deuil, qui va être complètement dans la douleur, et qui va se petit à petit essayer de se reconstruire, trouver un travail. Et son patron, d'ailleurs, qui va lui faire une cour effrontée. Alors, c'est assez formidable parce que, en fin de compte, elle va être reconquérie par un homme qui est tout à fait improbable. C'est-à-dire qu'il a Rien de particulier, c'est le monsieur lambda, quoi, en fait.
Mais il est délicat.
Il est délicat, voilà, il est plein d'attention, et en plus de ça, il y a une sorte de complicité qui se noue entre eux. Alors, c'était, je sais pas, c'est une hymne au bonheur, quoi, je trouve que, un peu comme dans le film Cap ou pas Cap de Canet, quoi, on est porté un peu dans, par ce livre, on est bien, quoi.
Vous rappelez, Gérard, du moment où vous l'avez lu, ce livre, dans quel état d'esprit vous étiez, vous, à cette époque-là?
Oui, je travaillais une période de doute et en même temps de blues, et je pense qu'en même temps, c'est des livres qui vous apportent, qui vous donnent du positif, qui vous tirent vers le haut, parce que jusqu'au bout, je l'ai lu, j'avais hâte, on commence une page, deux pages, et puis on est emporté, on suit vraiment les protagonistes. En même temps, ils sont très touchants, on se dit, en fin de compte, tout le monde a envie de vivre, enfin moi personnellement c'est un petit peu mon ressenti, de vivre un peu ce genre d'histoire d'amour.
Et vous le racontez, c'est un moment, Christina, dans votre livre, cette passion qu'on a parfois avec un livre où on peut pas s'empêcher de se dire, vous dites à un moment, moi tant pis, il faisait très beau, je sortais pas pour aller me promener, j'avais envie de continuer la lecture.
Oui, mais bien sûr, c'est un des grands charmes et une des grandes forces, des grandes puissances de la lecture, en tout cas de la lecture, mais pas seulement, j'allais dire de la lecture, de la littérature, mais pas seulement, on peut être complètement happé par un essai, hein, par un essai philosophique, par un essai historique. Ça, c'est la grande force de la littérature, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui se crée, un lien unique d'ailleurs, entre le lecteur et le livre. Et ce lien ne peut être remplacé par rien. C'est-à-dire qu'on, c'est un lien vraiment intime. On ne peut pas le partager. Il est
unique. C'est très dur, ça, oui, de partager.
On ne peut pas le partager. Mm-hmm. C'est vraiment un dialogue entre ce que dit l'auteur et ce qu'on est, ce qu'on reçoit soi-même. Ça, c'est absolument irremplaçable. Et ça vaut pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut toujours tomber sur un livre comme ça. Bien sûr qu'il y a des livres qui nous cassent les pieds et qu'on a envie de mettre de côté. Mais cette rencontre-là, entre le lecteur et le livre, c'est unique et c'est irremplaçable.
Et puis, il y a des moments de vie aussi. Gérard qui lit La délicatesse à un moment précis de sa vie. On ressent pas forcément les choses de la même façon. Si on est amoureux, pas amoureux.
Bien
si
entendu.
On a vécu un chagrin d'amour. Sur ce livre-là en particulier.
Bien entendu, et puis ça dépend aussi de l'âge qu'on a, auquel on lit le livre. Il y a des livres qu'on lit très jeunes, auxquels on ne comprend strictement rien. On les relit une fois adulte et d'un seul coup, quelque chose se révèle d'absolument extraordinaire, ou alors l'inverse. On a lu quelque chose de très beau, qu'on pensait très beau à l'adolescence, par exemple, qui est un âge où on adore découvrir la littérature, et puis on le relit plus tard et on se dit, ah bon, c'était ça, bof. Mais il s'est quand même passé un truc. Et peu importe que après coup, on le relise en se disant finalement c'était pas si bien que ça. Ce qui compte, c'est la trace que le livre a laissée en nous. Et ça, c'est irremplaçable, absolument irremplaçable.
Et Gérard, est-ce que ça vous a donné envie de lire d'autres livres ensuite de David Fuenkinos, ou est-ce que c'était vraiment ce livre-là en particulier? Parce que parfois, ça marche pas à tous les coups, hein.
Ah non, c'était vraiment ce livre-là en particulier, j'ai pas cherché après, parce que je lis beaucoup de choses variées. J'avais lu aussi une biographie de Sandrine Bonner qui était vraiment géniale, où elle a raconté vraiment toute sa vie, son parcours, et c'est pareil, c'est un personnage touchant. J'ai des lectures relativement variées, quoi, en fait. Hein.
Mais c'est bien, c'est ça aussi qui fait la force de la lecture, c'est de pouvoir se promener d'un univers à l'autre. Gérard, merci beaucoup d'être venu témoigner ce soir. On vous embrasse et à très bientôt sur France Bleu. Les livres, on en parle avec vous au 0810 055 056. Racontez-nous quel livre vous a touché, vous a marqué, vous a fait du bien. Alors, c'est pas forcément que quand on est triste, hein, qu'un livre va nous faire du bien. Il peut nous faire du bien parce qu'on se dit, tiens, j'avais pas vu les choses de cette façon. Ça permet aussi de partir dans un autre univers. Ça permet de donner de la force et de la foi vers quelque chose, de partir carrément à la découverte d'un autre univers. Venez nous en parler au 0810 055 056. À tout de suite.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et ce soir, on voyage grâce au livre. On se pose dans les transports en commun, dans son canapé, au chaud, sous la couette, peu importe, pour passer un bon moment avec un livre. Les livres sont des amis, des guides, des réconforts, des objets uniques. Ils ont une vie, une odeur, un rôle particulier. Quel est le livre qui vous a fait du bien? Racontez-nous comment vous lisez, comment vous choisissez c'est vos livres aussi. Quel rapport vous avez avec l'objet livre? Est-ce qu'une fois que vous l'avez lu, vous le rangez? Est-ce que le livre a une seconde vie aussi? On parle de tout ça avec vous au 0810 055 056. Notre grand témoin, c'est la journaliste et écrivain Christy Lapelet-Douel, auteur de ces livres qui nous font du bien. Invitation à la bibliothérapie, c'est chez Marabout. Et nous sommes maintenant dans Lyon avec Isabelle. Bonsoir Isabelle.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonjour. C'est oui. comme vous voulez, vraiment.
Oui, bonsoir. Oui, je téléphonais par rapport à un livre qui m'a beaucoup marqué, qui a changé ma vie, qui a déclenché une partie de mon histoire. Ça a été Quitter le monde de Douglas Kennedy. En fait, c'était un moment particulier où j'avais perdu beaucoup d'êtres qui m'étaient chers et en moins de deux, toute ma famille. Et j'ai lu ce livre et en fin de compte, ce livre a une résonance incroyable de propulsion. J'écoutais la musique dont il parlait dans le livre, etc. Et je suis partie, j'ai effectivement voulu quitter le monde et j'écrivais moi-même et je disais je vais quitter le monde et je suis partie, effectivement, j'ai tout quitté, maison, etc. pour aller dans un chalet d'alpage pour ressusciter. Et ce livre a vraiment été un déclencheur, donc je pense que... j'adore lire, je lis beaucoup et c'est vrai que parfois, suivant les circonstances de l'existence, un livre peut vraiment apporter... moi là c'était du positif parce que ça c'est pas le livre qui a révélé ma situation, mais ça m'a boosté et j'y repense toujours à ce livre.
Vous l'avez gardé d'ailleurs, cet exemplaire ?
Non, en fin de compte, une fois, un jour, des personnes sont venues chez moi, je l'ai prêté et on me l'a jamais rendu. Je me suis dit, après tout, ça devait être la destinée. Et après, j'ai requitté ce chalet d'alpage parce que ça devait être qu'un transit. En fait, parce que comme dans le livre, on fuit, on va quelque part. Et après, on essaie de se reconstruire comme on peut. Et bon, après, on réintègre un peu son histoire. Mais franchement, je crois que jusqu'à la fin de mes jours, je repenserai à ce livre. Et un jour, je me dis, je vais le relire. Et j'écoute encore parfois, parce qu'il y a la symphonie de Bruckner dans le livre, etc. Mais et c'est cette fuite en même temps qui fait qu'on se reconstruit en fuyant. Et c'est très étrange. Et jamais j'aurais pensé à ça avant, quoi, qu'un livre puisse être...
Un déclencheur comme ça, oui. Christy, là, c'est très touchant ce que nous dit Isabelle. Et ça l'est d'autant plus que vous démarrez votre livre en parlant de Douglas Kennedy.
De Douglas Kennedy. Et oui, il y a un lien là exactement avec ce que vient de dire Isabelle, ce qu'elle vient de nous raconter. Parce que Douglas Kennedy, que j'avais interviewé, à l'occasion de tout à fait autre chose pour psychologie. On a parlé évidemment de littérature, de lecture, et il a eu et je lui ai parlé du livre que j'étais en train de préparer, et il a eu vraiment l'incroyable gentillesse d'écrire un texte uniquement pour moi, pour le
La
livre,
classe.
Pour les lecteurs. Et c'est un très joli texte, justement, sur l'importance de la lecture et sur l'importance qu'un certain livre de Richard Yates a eu sur lui. Et il y a donc un lien, Isabelle, avec ce que vous avez vécu dans le livre de Douglas, donc il y a un lien direct. Et Douglas Kennedy est un immense lecteur, et je crois que c'est peut-être aussi pour ça que les choses circulent. Ça me paraît difficile d'écrire sans être soi-même un grand dévoreur de livres. C'est-à-dire que l'écriture se nourrit.
Tous ces livres, La poursuite du bonheur, etc. Ça a été un déclencheur et j'ai tout lu, ce qu'il avait écrit. Mais c'est vrai que j'ai ce livre qui a tout déclenché parce que j'avais jamais rien lu de lui avant. Et je voulais simplement donner ce témoignage. Honnêtement, j'ai jamais téléphoné à une radio, j'ai jamais
raconté. Mais vous avez bien fait, Isabelle, parce que c'est un joli témoignage en plus.
J'ai entendu ça tout à l'heure. J'ai dit, s'il y a quelque chose qu'il faut que je raconte, c'est ça, parce que après avoir perdu toute ma famille, m'avoir donné cette force, à un moment donné de quitter le monde, et c'est ce que je pensais dans ma tête, c'était quitter ce monde. Mais quitter ce monde en bien, quoi, disons, quitter ce monde pour pouvoir arriver à revivre, à renaître, et pas pour quitter le monde pour mourir, quoi. C'était quitter le monde. Le livre m'a permis, quelque part, que ça soit pas pour se détruire, mais pour se reconstruire. Et c'était juste, pour dire.
Priscilla, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, je vais complètement dans votre sens, Isabelle, parce que la lecture a vraiment plein de vertus, mais entre autres, l'acte de lire, c'est vraiment ce qui nous permet de nous imprégner du sens du texte, mais surtout de le faire nôtre, de l'absorber, de le métaboliser. On disait tout à l'heure qu'il y a une rencontre entre un auteur, entre un texte et un lecteur. Et quand cette rencontre a lieu, ce qui a été votre histoire, d'un seul coup, il se passe quelque chose que dit l'auteur, résonne en effet en vous, et ça vous permet de vous ouvrir à d'autres choses. Et il y a un auteur, un psychanalyste qui a écrit un livre formidable sur justement la bibliothérapie, qui s'appelle Marc-Alain Wachnin, et il dit la création donc de l'écriture, de la lecture, il parle de la lecture comme d'une véritable création de la part du lecteur. La création ne peut avoir lieu sans un déchirement, un éclatement de ce qui préexiste. C'est exactement ce qui vous est arrivé, enfin ce qui est arrivé à Isabelle qui vient de témoigner.
Ah oui.
C'est-à-dire que cette rencontre avec le texte de Douglas Kennedy a provoqué un éclatement et d'un seul coup l'a décidé à se retirer du monde pour permettre sans doute à toute cette période de deuil d'avoir lieu et puis de lui permettre de revenir à la vie. Et c'est un pouvoir extraordinaire quand même.
Merci Isabelle d'être venue témoigner ce soir sur France Bleu. C'était la première fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière.
Oui,
vous repassez quand vous voulez.
Au volant de ma voiture, vous savez, comme dans le texte, quand dans son livre, elle roule très très vite, elle écoute la musique dans sa voiture et elle va vers... Eh bien écoutez, franchement, je ressentais ça, ça me donnait une force intérieure incroyable. Et moi, je trouve que les livres, c'est magique, quoi, voilà.
Et c'est Douglas Kennedy qui serait drôlement content d'entendre ce que vous êtes en train de dire.
On lui enverra peut-être l'émission, on sait jamais. Enfin, vous lui passerez, parce que vous avez l'air de bien le connaître, Christine.
Oh, je le connais pas bien, ce n'est pas un ami, n'exagérons rien, je le connais un petit peu, mais il vient souvent en France, alors oui, on pourra lui passer bien sûr l'émission.
Merci encore Isabelle, à très bientôt sur France Bleu, vous faites partie de la famille désormais, vous revenez quand vous voulez. On vous attend vous aussi au 0810 055 056. Racontez-nous le rapport que vous avez avec les livres et avec peut-être un livre en particulier qui a changé votre vie, qui a été une révélation, qui vous a emmené vers un autre univers. On peut parler aussi de réflexion philosophique, on peut parler d'histoire de l'art. Il y a des découvertes incroyables dans les livres. Et puis on va parler aussi de l'objet livre, la façon de le choisir, de le toucher, de le garder, de le sentir aussi. On vous attend jusqu'à 22h, comme chaque soir, on se dit tout.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
On pourrait faire une émission sur les chansons qui nous font du bien, mais ce soir on a décidé de parler des livres qui nous font du bien. On a tous un livre qu'on aime plus qu'un autre, un livre dont on ne peut se séparer pour rien au monde, qui nous accompagne au gré de nos déménagements. Et parfois c'est plus qu'un livre, c'est carrément une thérapie, un soulagement, une façon de voir le monde différemment, une possibilité de faire de grandes choses. Les livres qui nous font du bien, qui nous changent la vie, c'est le sujet d'On se dit tout jusqu'à 22h. On vous attend sur France Bleu au 0810 055 056 avec Christine Appelé-Douel, journaliste, lectrice et auteure de ces livres qui nous font du bien aux éditions Marabout. Nous sommes avec Catherine, je crois. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue sur France Bleu, vous êtes dans les Vosges.
Oui.
Et on va parler d'un livre pas simple, hein, Vipère au poing. Ça a été un des premiers livres que vous avez lus.
C'est mon tout premier livre que j'ai lu.
Bravo.
Oui.
C'est pas le plus facile pour démarrer quand même.
Non, mais bon, il était sur l'étagère parmi les autres livres de mon père. Et puis mon père m'avait dit, un jour, je te le prêterai, tu le liras. Et c'est le livre qui m'a donné le goût de la lecture. Quoi. Et c'est le premier livre que j'ai eu et je me le suis fait prendre par la prof de français parce que...
Ah, c'est un comble.
Oui, parce que ben je lisais en cours, j'arrivais pas à me détacher du livre et ça fait que j'ai jamais lu la fin du livre.
Ah non, mais alors jamais, même pas
non.
Maintenant.
Oh non,
alors et, il faut réparer ça quand même.
Et pourtant j'ai une amie qui me l'a offert, mais aujourd'hui j'ai peur de me dire, je me dis peut-être que je retrouverai plus la même sensation que j'ai eue à ce moment-là. J'étais captivée, je me mettais dans un coin dans la cour pour pouvoir lire 2-3 pages sans être embêtée. Et ça m'a donné le goût de la lecture, depuis je lis toujours.
Mais ça peut faire un peu comme pour les films, on a adoré un film et on se dit, je sais pas si je vais vraiment le re-re-regarder parce que j'ai peur de pas ressentir la même émotion. C'est ce que vous nous dites, hein, Catherine, là.
Oui, mais il peut aussi, Catherine, vous savez, vous pouvez aussi avoir exactement l'émotion inverse, hein, c'est-à-dire retrouver exactement les sensations de votre enfance en vous replongeant dans le livre. Ça existe, ça arrive. Et retrouver non seulement les sensations, mais retrouver même les images de la cour de l'école dans laquelle vous étiez, les bruits, les odeurs, etc. Parce qu'il y a un phénomène assez extraordinaire qui se produit quand on lit, quand on est vraiment plongé dans un livre, c'est qu'on s'abstrait du monde, on est dans une bulle, hein, vous êtes d'accord, on est le reste du monde disparaît, on est absolument plongé dans l'univers de l'auteur, mais en même temps, le reste du monde continue tout de même d'exister, mais de manière inconsciente pour nous, et s'imprime dans notre cerveau.
En même temps que l'histoire.
S'imprime dans notre cerveau. Et les neurologues, maintenant, sont capables d'expliquer pourquoi. Et donc, la lecture, une lecture très aimée comme ça, ou très passionnante, ou très angoissante, peu importe, en tout cas, qui provoque quelque chose, est quasiment toujours associée à un lieu, à une sensation, à un bruit. Et cette sensation, ce bruit ou ce lieu reviennent à la lecture du livre ou simplement à l'évocation de ce livre. Je suis sûre que lorsque vous pensez, Catherine, à ce livre, quand vous évoquez l'histoire, je suis persuadée, essayez peut-être de faire l'essai, que vous retrouvez les couleurs et peut-être les odeurs de votre
c'est
enfance.
C'est le parfum que j'aime sentir de ce livre. J'ai l'impression qu'il a un parfum particulier.
Voilà.
Quand je le ressors pour... Ben parce que je me dis, qu'est-ce que je fais avant d'en attendre un autre? Est-ce que je me replonge dans celui-ci et je le sens et parce que mon ami m'a offert, me l'a retrouvé sur un vide-grenier. Et j'ai l'impression que les feuilles de ce livre-là me rappelle quelque chose.
Alors ça, c'est très rigolo, Catherine, parce qu'on en parlait juste avant le début de l'émission avec notre grand témoin, Christilla. C'est un passage du livre qui, moi, m'a beaucoup marqué et dont on vous parle visiblement beaucoup. L'odeur des livres. Vous dites que d'une édition à une autre, des maisons d'édition à une autre, les pages n'ont pas la même odeur.
Ah, mais les livres n'ont pas du tout la même odeur, mais c'est un élément pour moi. Je ne parle que pour moi, mais visiblement pour Catherine aussi, et je suppose pour quelques autres lecteurs. C'est un élément extrêmement important, l'odeur des livres. Alors, j'ai sans doute l'air un peu bête quand j'entre dans une librairie parce que je
ressentais vraiment.
Ah oui. Je les renifle. Mais ils ont des odeurs différentes et certaines odeurs ne me parlent pas du tout.
Vous pourriez ne pas choisir un livre en fonction de son
odeur.
Non,
je n'irai pas jusque-là. Mais c'est un élément important. Il y a quelque chose, une correspondance avec l'odeur du livre, la sensation du papier aussi, la couleur du papier, la sensation du papier, la rigidité ou non de la couverture, les images évidemment, les images en couverture s'il y en a, la typographie, tout ça joue un rôle vraiment très important.
On peut être attiré par un livre qui est absolument pas connu,
absolument,
dont on connaît pas l'auteur, mais parce qu'il y a tous ces éléments-là.
Ah bah, absolument, on peut être attiré, totalement séduit par une image sur une couverture, par un titre simplement, même sans connaître l'auteur, on peut être absolument attiré et se dire je veux savoir ce qu'il y a
dedans,
dans ce livre-là. C'est absolument fréquent, ça.
Merci beaucoup, Catherine, d'être venue nous voir et j'espère que vous lirez la fin de Vipère au Point et qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Les livres, c'est le sujet dont on se dit tout, vous l'avez peut-être compris si vous nous rejoignez à l'instant sur France Bleu. Les livres qui nous font du bien, les livres qui ont de l'importance, les livres qui vous ont marqué. On parle de tout ça, on peut peut-être aussi parler de ces fameux coups de foudre qu'on a parfois dans des librairies, on se promène et on tombe sur le livre, la révélation, il n'y a pas de hasard, paraît-il. Venez nous parler de tout ça, les livres de façon très large, c'est le sujet dont on se dit tout. au 0810 055 056.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Les livres ont parfois des pouvoirs insoupçonnés comme nous faire rire, nous faire pleurer, nous faire voyager, nous réconforter, nous faire grandir aussi. Les livres, on en parle toute la soirée. Donc on se dit tout avec vous qui les aimez, qui les bichonnez, qui les choisissez avec amour ou alors complètement au hasard. Et avec les livres qui vous emportent, qui vous détendent, qui vous font rêver, venez nous raconter le rapport que vous avez avec les livres et avec un livre peut-être en particulier. On se dit tout au 0810 055 056 avec notre grand témoin Christy Lapelet-Douel, journaliste à Psychologie Magazine, lectrice bien sûr, et aujourd'hui auteur avec ses livres qui nous font du bien. Invitation à la bibliothérapie, c'est chez Marabout. Et nous sommes maintenant avec Françoise. Bonsoir Françoise.
Bonsoir Vanessa.
Vous allez
bien? Oui, bonsoir madame.
Et bonsoir. On va parler d'un livre alors, que je ne connais pas, je ne sais pas si notre grand témoin le connaît, Le chemin le moins fréquenté.
Non, j'avoue humblement, non. Oui. Je ne le connais pas.
Mais il a de l'importance pour vous Françoise.
Il a beaucoup d'importance et c'est vrai que je l'ai prêté, je l'ai offert et à chaque fois les gens sont, enfin les gens, oui, qui ont voulu le lire parce que ce n'est pas du roman. Ce sont des témoignages écrits par un psychiatre qui s'appelle Scott Peck. Ce livre est sorti en 90, je crois, en 1990. Et ce sont des témoignages. Et ce livre commence par une phrase, moi, qui me touche beaucoup et qui m'a fait l'acheter. D'ailleurs, la vie est difficile. Mmh. Et quand on a compris que la vie était difficile, ben, effectivement, on amoindrit, si vous voulez, les problèmes. Parce qu'on, ben, les gens pensent que la vie est facile. Alors qu'en fait, la vie, elle n'est pas facile. Elle est difficile dès le départ. Et c'est à nous de grandir au milieu de ces difficultés, plus ou moins grandes. Et de, je pense qu'avec ça, on acquiert de la maturité, de la... Je ne sais pas comment vous expliquer.
Et c'est vraiment ces mots, la vie est difficile, qui vous a fait acheter ce livre, Françoise?
Oui, oui, parce que ouais. Je n'avais pas Internet à l'époque, je n'avais rien. J'étais dans une situation très, très difficile, hein, au fond d'un trou, on va dire, comme si c'était toujours au fond d'un tunnel. Mmh. Et puis bon, j'étais allée sur Dijon, puisque je suis de région Bourgogne. Je me suis arrêtée dans une librairie, je n'avais pas de sous, mais bon, un livre de poche, ça ne coûtait pas très cher. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais le prendre, allez, fais-toi quand même un petit plaisir. J'aime beaucoup lire. Et puis ce livre, c'est un des livres psychologiques que que j'aime beaucoup. Et pour moi, c'est un des plus beaux livres qui peut aider les personnes à grandir.
Alors là, vous nous parlez de ce phénomène qui est commun à tous les lecteurs, qui est celui de la reconnaissance et de la projection en fait, dans ce qui vous est proposé par l'auteur. C'est-à-dire que d'un seul coup, ce que vous dit l'auteur trouve un écho en raison de votre propre expérience, de votre propre vie, de votre propre parcours. Vous vous retrouvez dans ce que vous dit l'auteur. Mais en même temps, c'est là où se trouve un effet intéressant, une espèce de contradiction. Ce que vous dit l'auteur vous ouvre aussi à autre chose, à d'autres perspectives. L'auteur, en quelque sorte, est venu vous chercher, là où vous étiez, dans votre vie, et vous emmène un petit peu plus loin, un petit peu plus loin que là où vous étiez, c'est-à-dire qu'il parle de lui à vous. Alors, il parle de lui, évidemment, pas forcément de sa propre vie, mais ce qu'il dit est le produit de sa pensée, de sa réflexion. En quelque sorte, il ouvre son intimité, parce qu'il y a rien de plus intime, en fait, qu'une lecture. Hein. Vraiment, c'est un dialogue entre soi et l'auteur. Je ne vois pas bien ce qu'il peut y avoir de plus intime que la lecture d'un auteur dans une relation de lecture que faire l'amour. Je ne vois pas de choses plus intimes.
C'est joli comme comparaison.
Oui, vraiment. Mmh. Mais je le pense, parce que c'est vraiment du domaine de l'intimité très profonde.
Oui, puis ça réveille des choses parfois.
Ça réveille des choses, ça réveille des émotions, ça réveille une pensée. Ça allume quelque chose. Et donc c'est ça qui s'est produit pour vous. En fait, c'est une espèce de coup de foudre de lecture. Et c'est extrêmement important.
Et on voit que c'est pas que dans des romans. C'est
bien
important de le rappeler. Vous qui
bien
êtes en charge des livres à Psychologie Magazine, aujourd'hui on en voit plein des livres comme ça, de développement
personnel.
Vous pensez
les livres de développement personnel, de psychologie, etc. Alors, les avis sont très partagés. Alors évidemment que ces livres connaissent un succès absolument extraordinaire. Les librairies ont des rayons immenses de développement personnel, livres de bien-être, etc. Les personnes qui s'occupent de bibliothérapie, les bibliothérapeutes, ne sont pas forcément d'accord pour s'appuyer complètement sur ces livres de développement personnel, ce en quoi je suis absolument en désaccord, parce que je pense que chaque livre...
C'est une rencontre, en fait.
Tout livre a... une possibilité de soigner, alors de différentes manières. On n'est pas forcément malade, on n'est pas forcément en douleur, mais j'entends par le mot soigner un apaisement, l'ouverture sur quelque chose et une espèce de respiration plus grande que soi. Voilà, et ça forcément, ça vous soigne, même si vous n'êtes pas malade, même si vous n'êtes pas dans la douleur. C'est vraiment au sens de prendre soin. Les livres prennent soin de nous, nous soignent, nous prennent dans leur... C'est ce que je dis à un moment dans le livre, mais vraiment pour moi c'est une image qui parle, hein, nous prennent dans leurs bras de papier. Et vraiment ce sentiment-là, on a l'impression que l'auteur nous chuchote quelque chose à l'oreille, ne parle que pour nous, et en même temps, ça nous relie au reste du monde.
Qui continue de tourner,
qui continue de tourner, qui nous relie aussi aux autres. Est-ce que vous savez, par exemple, que lorsqu'on lit, alors il y a des études qui ont été faites, bien sûr, on peut toujours contester toutes les études, mais on sait que lire développe l'empathie. Alors, pour plein de raisons d'ordre neurologique, mais des études ont été faites auprès d'un certain nombre de cobayes. Et la lecture, et pas seulement la lecture de fiction, hein, la lecture d'une manière générale, nous ouvre à l'empathie. C'est pourquoi la lecture aux enfants, la lecture à haute voix, par exemple, dans le lien presque fusionnel de peau à peau quand on a un enfant dans les bras, la lecture aux enfants est tellement, tellement importante, tellement fondamentale.
Ça développe des émotions, des sentiments.
Des capacités aussi de se reconnaître, d'élaborer des sentiments et de comprendre des situations qui parfois échappent ou inquiètent les enfants.
Merci beaucoup Françoise pour votre témoignage. Le chemin le moins fréquenté, donc pourquoi pas, hein, ça peut faire du bien, on l'a bien vu pour vous, ça a été vraiment une révélation avec Scott Peck, donc l'auteur de ce livre. Merci encore et on continue d'en parler de ces livres qui nous font du bien, qui vous font du bien au 0810 055 056. La suite de vos témoignages, ce sera juste après les infos de 21h maintenant.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
La suite de vos confidences jusqu'à 22h, des confidences autour des livres. Ce soir, le livre en tant qu'objet qu'on touche, qu'on sent, qu'on regarde avant de lire, qu'on caresse même. Et puis, il y a des livres qui nous font grandir, qui nous font sécher nos larmes, qui nous font prendre de nouvelles directions. Des livres qu'on choisit un petit peu au hasard. On sait que parfois, il y a de jolis hasards. Parlez-nous de ces livres importants dans votre vie, du rapport que vous avez avec ces livres. Comme Audrey, on va parler de lecture même depuis Cherbourg. Bonsoir Audrey.
Oui, bonsoir.
C'est très joli ce que vous faites parce que vous faites des lectures par téléphone.
Oui, alors j'ai découvert ça il y a à peu près 2 ans. En fait, j'étais à la bibliothèque près de chez moi et j'ai tourné la tête et j'ai vu un livre, c'était marqué André Lafont, Une mort provisoire. Et j'ai dit, ce livre, il va me parler, donc je l'ai emprunté. Et puis, en fait, j'en ai parlé à mon ami qui est à distance, et lui, il est très, très virtuel, et moi, je suis encore très papier. Et il me dit, tu sais, ça m'intéresse, quoi, mais j'ai vraiment pas le temps de lire. Essaie de me faire un petit résumé, quoi. Et l'histoire a commencé comme ça, en fait. Donc, je lui ai fait des résumés, comme ça, deux ou quatre minutes par messagerie, quoi. Et puis, on a continué avec d'autres livres. Tout à l'heure, je lui ai fait un résumé, justement, d'un dossier... Le dossier Se libérer du passé du magazine Psychologie. Et autrement, il y a d'autres choses aussi. Par exemple, j'avais découpé un article dans un magazine il y a quelques années de Marie Le Gall. C'était un article sur son livre Les embruns du passé. Et en fait, je suis tombée dessus il y a encore quelques semaines et j'ai commandé le livre à la librairie et je lui ai fait plein de résumés quoi par téléphone. Quoi.
Ah, je croyais que vous faisiez de la lecture à haute voix, mais en fait, vous faites des résumés.
Voilà, oui, parce que je peux pas lire tout le livre quand même.
Parce qu'en plus, vous me dites il a pas trop le temps de lire. Alors je me disais, waouh, il a le temps de passer des heures au téléphone. Mais non, c'est des petits résumés en fait.
Des résumés en fait.
Pour donner envie de lire.
Ce qui me parle le plus en fait, ce qui est parlant pour moi, voire le plus parlant, le plus criant, on va dire. Et, et il est très intéressé, quoi.
C'est génial, c'est chouette de faire des fiches de lecture audio.
Oui, les fiches de lecture par téléphone, non mais c'est formidable. En plus, c'est un moyen extraordinaire pour garder le contact avec l'autre et puis pour enrichir une relation. D'ailleurs, on parlait de lecture à haute voix tout à l'heure. La lecture à haute voix a un pouvoir évocateur absolument extraordinaire hein, et un pouvoir de lien.
Pas que pour les petits.
Pas que pour les petits, pour les adultes aussi. Et vous savez que la lecture à haute voix peut se faire de manière très érotique et c'est extraordinaire. La lecture à haute voix a un pouvoir de séduction.
Même sur un texte qui ne l'est pas trop au départ.
Oui, mais on peut aussi choisir un texte érotique. Mmh. Tout à fait.
On fera une émission sur la littérature érotique, je le dis au passage, c'est dans 15 jours dans ce dit-tout.
Formidable, voilà. Formidable, il y a beaucoup de choses à dire sur la littérature érotique. Mais le pouvoir d'évocation, le pouvoir charnel de la voix, du son de la voix, c'est irremplaçable. Quoi. Je pense
ça
que
marche
ça...
bien d'ailleurs les livres audio.
Oui, je pense que ça explique en partie, alors d'abord parce qu'on a de moins en moins, hélas, le temps de lire ou on se donne de moins en moins le temps de le faire. Et alors les livres audio sont un moyen vraiment formidable de pouvoir garder ce contact avec le texte. Voilà, ils sont souvent lus. Alors, ne croyez pas que ce sont des livres qui sont des livres, des classiques, hein. Toutes les sorties de livres sont enregistrées et se trouvent maintenant dans les librairies. Et c'est vraiment le pouvoir de la lecture.
C'est pas perturbant d'entendre quelqu'un parler.
Alors, ce n'est pas perturbant, mais ce n'est pas la même chose que de lire soi-même. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de lecture, deux niveaux de perception. Forcément, le filtre de la voix du lecteur vous laisse passer des choses que vous n'auriez peut-être pas lues ou perçues vous-même simplement par la lecture. Je pense à quelqu'un de cette vénérable maison qu'est Radio France, qui est Guillaume Gallienne, qui a cette magnifique émission le samedi après-midi.
Il a une voix assez incroyable,
une voix extraordinaire,
de narrateur,
et qui est un lecteur hors pair. Et si je peux parler d'un souvenir personnel, je me souviens d'avoir entendu, et j'étais en voiture justement, on entend souvent ce genre de choses en voiture. J'étais en voiture avec ma fille et soudain on a entendu Guillaume Gallienne qui lisait un passage de Lolita de Nabokov, qui est un livre majeur. Et sa lecture, pourtant je connais bien ce texte, mais la lecture de Guillaume Gallienne a soudain mis en lumière des éléments du texte que je n'avais pas perçus dans ma propre lecture. J'avais perçu d'autres choses. Et sans doute aurais-je lu, moi, Lolita à Guillaume Gallienne, ouais, il aurait peut-être entendu d'autres choses aussi.
Ouais. De l'importance hein, vraiment de l'audio aujourd'hui, et ça permet dans nos vies toujours souvent un peu rapides comme ça, de pourquoi pas continuer une lecture dans la voiture, d'avancer sur
et
un livre.
Et ça permet d'avoir accès en fait à deux niveaux de lecture, le niveau du texte et puis le niveau qu'entraîne le son de la voix du lecteur. C'est assez magique quand même.
Audrey, merci de nous avoir appelé, bravo pour vos petites fiches de lecture audio pour votre ami, il a de la chance de vous avoir comme ami. On part en Isère maintenant chez Eric. Bonsoir Eric.
Bonsoir à toutes les deux et bonsoir à tous les auditeurs.
Bonsoir.
On va parler de Marcel Pagnol avec vous.
Oui, je suis désolé, pas de lecture érotique. Hein.
Écoutez, c'est pas grave. Hein.
D'accord, ok. Donc je ne suis pas un grand lecteur. Malgré que la lecture me fasse passionner des guerres de Vendée ou du débarquement en Normandie. Mais un grand souvenir, j'ai 54 ans en fait, et depuis l'âge de 11 ans, je lis très régulièrement les œuvres de Marcel Pagnol, dont La gloire de mon père, Le château de ma mère, et puis bien sûr L'eau des collines, Jean de Florette et Manon des sources. Alors je les lis donc très régulièrement, depuis l'âge de 11 ans, et puis donc c'est inné, et j'en prends même l'accent marseillais, tellement que je suis impliqué dans la...
Est-ce que vous lisez à haute voix, justement?
Non, je lis pas à haute voix, mais je prends l'accent... J'entends les cigales, et Pagnol, c'est l'authentique, la sincérité avec un joli brin d'humour aussi,
oui.
Et parfois du tragique. Hein, on le lit dans, bien évidemment dans Manon des sources, voilà.
Ça vous rappelle des souvenirs? Il y a des parallèles avec votre enfance? Il y a des souvenirs de la Provence, peut-être aussi?
En fait, je suis natif du Périgord. Donc, le Périgord et la Provence ont quelques liens communs à travers...
La Languedoc?
Oui, voilà, évidemment. Alors, peut-être. Et j'avais mes arrière-grands-parents qui étaient métayers. Et donc, j'ai des souvenirs de tout ça, bien évidemment. Le son des roues de la charrette qui roulait sur les cailloux, ce son-là qui rentre bien, qui est pénétrant. Et je le ressens dans Pagnol. Et effectivement, oui, je ressens des souvenirs d'enfance, évidemment. Même si les deux régions ne sont pas proches, mais proches parfois.
Les choses simples, les plus simples,
mais
parfois,
c'est ça que les régions ne soient pas proches. Je pense que probablement, Eric, vous auriez le même genre de sensation en lisant le récit de l'enfance d'un enfant ailleurs dans le monde, mais qui aurait ce lien avec la nature. Et ça vous évoquerait le même genre de choses, ou ces rapports avec les parents du petit Marcel, le drame de la mort de la mère, sont des choses universelles. Alors, il y a deux choses là. Il y a la puissance d'évocation du texte de Marcel Pagnol, et c'est dû, je ne vais pas me faire parler beaucoup de Marcel Pagnol, mais il a une telle puissance poétique, une telle force d'évocation, que de quelque chose qui pourrait sembler être un roman régional, il devient universel. C'est-à-dire que c'est exactement ce que dit Eric. Il a beau être du Périgord, hein, qui n'est pas la Provence, c'est la même chose.
Ça parle.
Ça parle. On parle de sentiments humains, on parle de choses très profondes, humainement très profondes. Et voilà, et l'évocation est la même pour tout le monde. Elle parle avec la même force.
Est-ce qu'on s'en rend compte quand on est petit? Parce que souvent, on découvre Marcel Pagnol à l'école. C'est là, typiquement, Pagnol, c'est typiquement la double lecture. On peut le lire petit, on peut le lire adulte.
On peut le lire, on peut le lire vraiment à tout âge. On peut même le relire. C'est vraiment d'une telle fraîcheur et d'une telle subtilité. Parce que c'est vraiment loin d'être aussi simple qu'on veut bien le lire. Donc, il y a en effet plusieurs niveaux de lecture possible chez Pagnol, et cette force de la poésie, de tout ce qui n'est pas dit, car la lecture et l'écriture ont cette capacité aussi très importante de suggérer des choses qui ne sont pas exprimées. C'est-à-dire que la lecture entre les lignes, la suggestion, renforce la puissance évocatrice d'un texte.
C'est puissant tout ça, Eric, hein. Vous vous rendiez compte de tout ça en lisant Pagnol ?
Ah mais bien évidemment. Comme je disais tout à l'heure, on a les cigales dans les oreilles, on a le thym, le romarin.
Les odeurs, oui.
C'est magnifique, quoi. Et Pagnol, bon, bien évidemment, son écriture, elle paraît si simple.
Oui.
C'est ça qui est merveilleux, parce que faire du Pagnol, c'est pas permis à tout le monde.
Hein. C'est un grand auteur, car elle semble en effet très simple, mais rien n'est plus difficile que la simplicité. Je ne sais plus quel est l'auteur qui a dit ça, mais c'est tellement vrai.
Et ça marche tellement bien.
Ça demande un travail absolument énorme pour arriver à écrire de manière très simple.
Merci beaucoup Eric pour votre appel et votre témoignage et ces souvenirs donc qui vont parler à beaucoup de gens quand on pense à Marcel Pagnol. On parle des livres ce soir, les livres qui changent la vie, qui nous font du bien, qui nous réconfortent, les livres dont on ne peut pas se détacher. Vous avez peut-être déjà connu ça, de commencer un livre et de ne pas pouvoir vous arrêter, quitte à lire au moment où c'est pas du tout le moment de lire, mais il y a un rapport comme ça très fort, très fusionnel peut-être même avec un livre, et vous l'avez connu. 0810 055 056, venez nous rejoindre, on est ensemble jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Les livres, c'est le sujet d'On se dit tout avec vous jusqu'à 22h. On vous écoute nous parler de vos livres préférés, de votre rapport aux livres, de vos auteurs préférés, du sentiment de réconfort qu'on a parfois avec un livre, de ce qu'ils vous ont apporté. Ils vous ont fait du bien après un chagrin d'amour, ils vous ont donné envie de changer de vie, d'orientation, ils vous ont aidé à soigner une blessure d'enfance, on en parle et c'est important de le faire au 0810 055 056 avec notre grand témoin ce soir, Christy Lapelédouet, l'auteur de ces livres qui nous font du bien, c'est chez Marabout. Et on va voir qu'il n'y a pas d'âge pour lire, pour commencer même à lire. Nous serons dans un instant avec Marie-Adèle qui nous parlera de sa maman qui a commencé à lire à 85 ans. Mais on va parler aussi des ados et là ça va parler à plein de gens qui nous écoutent, comment donner le goût de la lecture à ses enfants. Jean-François est avec nous à Grenoble. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir.
Vous avez réussi, bravo, à donner le goût de la lecture à votre fils. C'était pas gagné, il aimait pas trop ça.
Alors, je pense pas que ça dépende de celui qui cherche à donner le goût à l'autre.
C'est vrai,
ça dépend aussi beaucoup de ce que l'autre a en lui-même et de ce que ça peut faire écho en lui-même.
Bien sûr.
Quand j'ai commencé à vouloir lui donner le goût de la lecture à Julien, il devait avoir une dizaine d'années, et puis peut-être un petit peu moins. Bon, enfin voilà, je cherchais à lui donner le goût de la lecture. Et un jour, je lui dis donc bon, viens, on va aller regarder dans une librairie ou à la FNAC quelque chose parce qu'il voulait pas, il savait pas trop. Bon. Finalement, il me dit bon, ok, on y va. Et puis on y est allé. Et puis je lui ai dit bon, voilà, là, il y a tout plein de livres, tu choisis ce que tu veux. Et alors, il y avait plein d'ouvrages jeunesse. Hein, et au bout d'un moment, il m'appelle, il me dit, ça y est, papa, j'ai trouvé. Il m'amène devant les mangas. Je me suis dit, bon, c'est de la BD, c'est pas gagné. Et en fait, j'ai très vite réagi, et puis je me suis dit, bon, c'est de la lecture. Mmh. C'est de la lecture de gauche à droite. Ça fait bouger l'esprit. Ok, on y va, on verra bien ce que ça donne. Et puis en fait, en un an, il a lu 60 mangas, quoi. Donc,
il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent de ça. Ah, mon fils lit des mangas, ma fille lit de la bande dessinée. C'est de la lecture.
Ah bah bien sûr, c'est de la lecture. C'est même une porte formidable hein, vers la lecture. Il n'y a pas de hiérarchie à faire à partir du moment où on rentre dans l'écrit.
C'est ça.
Voilà, c'est gagné. Et puis il y a des étapes dans l'existence. En plus, il y a des moments où on lit de la BD. Et puis c'est même ça. Pour nous adultes, il y a des moments ou par exemple, si on traverse un moment difficile, je ne sais pas, une maladie, un deuil, une difficulté oui. quelconque, on n'est pas simplement capable de lire autre chose que, par exemple, des romans policiers ou des BD. Et alors, ça Absolument. N'a strictement aucune espèce d'importance.
Il y a une évolution dans sa lecture, dans ses choix de lecture, Jean-François ?
Oui, alors très vite, je lui ai dit, bon, c'est super les mangas. Ben, il m'a dit, papa, c'est génial, parce que c'était Naruto. Hein. C'est exactement, la philosophie de vie que tu m'enseignes, l'amour de l'autre, l'entraide, la justice, le droit, etc. Donc très bien, et puis après je lui ai dit, bon, essaye de passer à des bouquins où il y a moins d'images. Et très vite, en fait, il est passé à la lecture livre de son âge. Et puis voilà, aujourd'hui, il a déjà lu presque toute l'œuvre de Verber.
Bravo.
Il s'est attaqué à l'œuvre de Robineau, et ben il est en bonne voie de la lire dans son intégralité. Mm-hmm. Je lui ai acheté récemment Idriss Aberkane, c'est un bouquin sur le cerveau,
ouais.
Libérez votre cerveau.
Ouais.
Alors il l'a lu, il m'a dit écoute, les 80 premières pages c'était bien. Le reste, j'ai rien compris, je le lirai quand je serai plus mature.
Même on a le droit, ça, hein, de pas finir un livre.
Ah mais oui, alors ça, c'est une chose très importante, bravo Vanessa, de souligner ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop révérencieux non plus avec la lecture et les livres. Ça, c'est vraiment extraordinairement important, c'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas aimer un livre, premièrement. Deuxièmement, de ne pas avoir envie de le poursuivre et de le laisser en cours de route, et ça n'a vraiment aucune espèce de conséquence, quoi. Ce qui est important, et c'est ce que votre fils a trouvé grâce à vous, c'est le plaisir de la lecture, cette espèce de jouissance extraordinaire de l'esprit qu'on trouve, de cet enrichissement qu'on trouve dans la lecture et de cette échappée, quoi. C'est une échappée belle. Et vous avez su lui transmettre ça, ce mouvement-là. Et franchement, bravo, quoi.
Merci beaucoup, Jean-François, d'être venu ce soir sur France Bleu. On part à Saint-Rémy-de-Provence, chez Marie-Adèle. Bonsoir, Marie-Adèle.
Oui, bonsoir toute l'équipe.
On disait, il n'y a pas d'âge pour commencer à lire. On va parler de l'histoire de votre maman qui a commencé à 85 ans.
Oui, tout à fait. Bon, déjà, je rentre du travail souvent tard, je vous écoute tous les soirs. Donc, chaque fois, un nouveau sujet. Et là, j'étais sur la route et je me suis dit, là, il faut que je témoigne. Donc, je suis un petit peu dépêchée. Et j'ai dit à maman qui est ailleurs, tu vas écouter. Parce que je voudrais témoigner. Maman est allée à l'école jusqu'à 14-15 ans. Bon, elle n'avait jamais lu, elle écrivait comme ça, mais vraiment avec des difficultés, mais enfin, donc un manque de confiance aussi. Un jour, mon frère lui a mis un livre dans les mains. Je crois que c'était Les Piliers de la Terre. Enfin, je me rappelle comme ça du titre. Enfin, et c'était quand même écrit en tout petit, assez gros. Donc, il lui a dit essaye, avance, etc. Bon, et petit à petit, il est arrivé quand même à le lire. Mais voilà. Et puis, ça lui avait déjà ouvert une petite porte. Elle s'est dit, je suis capable. Et puis un jour, on est rentré dans la bibliothèque justement de Saint-Rémy, qui est très 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 bien faite. Et on lui a dit, mais vous avez des livres où c'est écrit un peu plus gros. Et là, ça a été vraiment la révélation, parce que c'est écrit plus gros. Il y a des livres vraiment de toutes sortes. Ils ont des rayons exprès pour ce genre de, avec des caractères un peu plus gros. Et il se trouve que je l'emmène chaque semaine. Elle prend 5-6 livres par semaine. Donc, à 80 ans, elle n'avait jamais lu.
Ah, c'est magnifique.
Et ça montre encore une fois qu'il y a des portes d'entrée dans les livres, vraiment pour tout le monde.
Mais bien sûr, pour tout le monde, à tous les âges et à tous les niveaux. Enfin, et vraiment, la lecture, c'est fait pour tout le monde. C'est un univers qui est accessible pour quasiment rien. Vous parlez des bibliothèques, j'en profite pour saluer les bibliothécaires et rappeler qu'il y a des bibliothèques vraiment partout en France, que ça ne coûte rien et que tous les livres sont à disposition de tout le monde. Donc on n'a pas besoin d'être riche pour pouvoir lire.
On n'est pas obligé de posséder non plus.
On n'est pas obligé de posséder. On peut aussi transmettre. Moi, je fais quelque chose d'assez rigolo. J'aime bien faire avec mes enfants ce qu'on appelle les lancers de livres. C'est-à-dire qu'on prend des livres parce que j'en reçois pas mal. En raison de mon métier, j'ai cette chance-là. Et certains livres, une fois qu'on les a lus, chroniqués, etc., eh bien, je les dépose dans les gares, dans le métro, et puis les gens s'en saisissent, voilà. J'en dépose même sur les pare-brises des voitures, sur les parkings des supermarchés. J'essaye de voir s'il y a un siège enfant dans la voiture. Je mets des livres pour enfants sur le pare-brise. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire très simplement. Faire partager, faire circuler. Mais il y a un mouvement comme ça qui laisse des petits mots à l'intérieur des livres. Je sais plus comment ça s'appelle.
Pour faire voyager les livres. Oui.
Ouais, je trouve ça formidable.
Et Marie-Adèle, elle vous en dit quoi, votre maman? Qu'est-ce qui ressort de ces lectures? Est-ce qu'elle est enthousiaste à l'idée de les partager? Est-ce que c'est quelque chose de très intime pour elle?
C'est très intime, je pense.
Ouais.
Parce qu'on ne raconte pas trop les histoires. Alors, elle choisit par rapport au titre. Enfin, et effectivement, elle est repartie dans des histoires qui lui rappellent beaucoup d'histoires sur son époque, sur son enfance. Mmh. Elle retrouve, elle revit tout ça à travers, ou alors voilà, à travers des personnages aussi. Mais je pense que petit à petit, avant, elle n'avait que la télévision. Et bien maintenant, elle a ses 5 livres par semaine. Et puis je
voulais une bonne lectrice, 5 livres par semaine.
Ah,
wow.
Oui, mais et puis je trouve que ça peut faire aussi ricocher, puisque moi, en l'accompagnant, je travaille beaucoup, je ne lis pas non plus, pas beaucoup, pas du tout, même presque le soir. Et là, du coup, quand je l'amène à la bibliothèque, bien, on me conseille et j'ai repris moi aussi à lire. Et à découvrir le plaisir du livre que je connaissais il y a longtemps, mais je trouve ça fabuleux.
Ça c'est intéressant,
le contagion magnifique, ça.
Ça peut arriver, Christina, parfois, de plus avoir envie de lire.
Oui,
bien sûr. Dire,
oh bah oui, alors ça arrive.
Mais c'est pas très
sûr.
Grave, c'est pareil.
Mais non,
on peut
c'est pas grave du tout. Mais non, c'est pas grave du tout. Ça reviendra à un moment ou à un autre. Voilà, il y a des moments où on n'est plus disponible. Où on est dans des humeurs, des états, ou simplement parce qu'on est trop fatigué, voilà, tout simplement. Mais c'est pas grave. Et puis on peut lire des choses plus brèves.
Hein, des nouvelles, c'est bien aussi.
Des nouvelles, c'est très bien. On peut lire le journal, tout simplement. Il n'y a pas que les livres, mais on peut lire aussi le journal. On peut lire des nouvelles, on peut lire de la poésie.
Et voilà, puis il y a d'autres façons de lire. On a parlé des livres audio. Il y a aussi tous les livres numériques qu'on trouve sur les tablettes,
tous
sur
les livres numériques, les livres audio qui sont vraiment formidables. On peut lire des nouvelles, on peut lire de la bande dessinée. Moi, ça m'arrive très régulièrement. Il y a des romans graphiques. De plus en plus, ce mouvement des romans graphiques qui est absolument extraordinaire de créativité, d'inventivité, de poésie, de beauté. Et qui est facile d'accès. Il y a les images, le texte. Voilà, c'est tout un univers qui se déroule.
On ferait une émission aussi sur la bande dessinée. C'est dans les tuyaux dont se dit tout. Ça veut dire qu'on aime beaucoup aussi parler de livres. Et on voit que les auditeurs dont se dit tout aiment beaucoup en parler aussi.
Et on peut même lire son passeport.
Oui, c'est une anecdote qu'on retrouve dans votre livre.
C'est l'anecdote. Ça, c'était une anecdote formidable. J'avais un ami qui, un soir, s'est retrouvé sans lecture. Or, il ne pouvait pas s'endormir sans lire. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et il était dans une chambre d'hôtel et le pauvre malheureux n'avait sous la main que son passeport. Et il a lu son passeport. Évidemment, ça m'a fait beaucoup rire.
Il faut voyager beaucoup quand même, hein.
Eh bien, il m'a expliqué justement, c'était un grand voyageur, il m'a dit « mais tu as tort, parce que en lisant simplement les tampons des visas, j'ai découvert des choses extraordinaires et ça m'a permis de reparcourir les voyages que j'avais faits, d'évoquer les endroits où j'étais allée, de repenser à un certain nombre de gens ». Et voilà, c'était une lecture différente, mais c'était une lecture aussi. Voilà. Donc vous pouvez toujours lire votre passeport. Hein,
Marie-Adèle, merci d'être venue témoigner ce soir sur France Bleu. Merci pour votre fidélité aussi. Et on fait un gros bisou à votre maman qui, a priori, nous écoute aussi. Les livres, jusqu'à 22h, c'est le sujet, avec vos histoires, vos témoignages, vos souvenirs et votre attachement particulier sur un livre. 0810 055 056 pour nous en parler.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout.
Et on fait la part belle au livre ce soir avec vos histoires, vos témoignages et avec notre grand témoin, la journaliste Christine Appelé-Douel, auteur du livre « Ces livres qui nous font du bien », invitation à la bibliothérapie chez Marabout. Et nous partons dans les Alpes de Haute-Provence. Bonsoir Florence.
Oui, bonsoir.
La lecture prend beaucoup de place dans votre vie?
Ah oui, je suis une boulimique.
C'est-à-dire, ça ressemble à quoi votre quotidien avec les livres?
J'ai décidé de passer à l'antenne. Hein.
Oh mais non, on est entre nous, on papote.
Je ne cache pas.
Il n'y a pas de souci.
Il y a des gens, pour s'endormir, ils s'endorment avec un somnifère. Moi, c'est mon livre.
Mais vous vous endormez vite ou il faut lire longtemps?
Comment?
Vous vous endormez vite ou vous devez lire longtemps?
Ben, disons que quand je rentre dans un livre, je veux toujours connaître la fin et j'ai tendance à m'endormir tard.
Ça m'étonne pas, on est un peu pareil.
Que je m'interdis quand je travaille, je prends des petites nouvelles ou parce que c'est passionnel chez moi la lecture. Voilà, voilà. Et après, ce que j'aime beaucoup dans la lecture, c'est que j'ai pas fait beaucoup d'études, mais je me rends compte que quand j'écris, je fais pas beaucoup de fautes d'orthographe.
Ah.
Alors je pense que
ça aide.
Oui, tout à fait.
Oui, mais parce qu'à force de voir les mots tous les jours.
Ouais. Mais bien sûr, il y a la structure de la langue qui est absorbée de manière inconsciente, bien sûr.
On va chercher la définition dans le dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire.
Oui.
Voilà, voilà.
Ma fille,
Nanette, voulait me faire un cadeau. Elle me dit, t'aimes tellement lire, je sais ce que je vais t'offrir. Mais qu'est-ce que tu vas m'offrir? Elle voulait m'offrir une liseuse.
Ça peut être délicat si on aime livre papier.
Lui, non, je tout mais pas ça.
Ah oui. Vous êtes attaché à l'objet livre.
À l'objet, voilà. Ouais. Bon, moi, je suis jamais arrivée jusqu'aux odeurs. Et pourtant, je lis énormément.
Eh bien, essayez, vous m'en direz des nouvelles.
Ouais, c'est ce que je vais faire.
Vous allez sentir les livres. Comment vous les choisissez, vos livres? Parce qu'apparemment, vous en dévorez beaucoup, Florence. Vous allez à la médiathèque, vous en achetez?
Alors j'en achète, avec mes copines on échange énormément. Et là, on a depuis cette année dans mon village, à Moustier-Sainte-Marie, on a mis une boîte à livres à disposition.
Oui, ça c'est formidable.
C'est
génial.
On a lu un livre, on le dépose et il peut servir à quelqu'un d'autre.
Voilà.
Et ça marche bien, la boîte à livres?
Les boîtes à livres, quand je vais en ville ou... sinon, en bibliothèque, et puis après, les copines, on se prête les livres.
Et est-ce que vous allez parfois dans les librairies? Est-ce que vous parlez avec les libraires qui sont des relais formidables, qui connaissent tellement bien ce qu'ils ont dans leur librairie, qui savent tellement bien en parler?
Alors, on a une super librairie sur Riez, dans le 04.
Oui.
Et justement, ils font un petit commentaire.
Voilà.
Ils lisent les livres.
Voilà.
Ils font un petit commentaire de chaque livre. Et ça nous motive ou pas à les acheter.
Et puis, en parlant avec eux, ils peuvent
vous diriger. Ils sont aussi forts quand on passe à la caisse aussi. Ils regardent ce qu'on a acheté, disent « Ah, vous aimez ça? Vous aimerez peut-être ça ?»
Voilà.
Ça, c'est génial, ça.
Ils font un travail absolument extraordinaire. On a beaucoup de chance en France, hein, parce qu'on a un maillage... Enfin, les librairies ont réussi à survivre grâce à un certain nombre de mesures qui ont été prises, entre autres le prix unique du livre. Et ça a permis de sauver des librairies un petit peu partout en France. Sinon, on serait pieds et poings liés avec les grandes chaînes concentrées dans les grandes villes, quoi.
Et là, cette année, nous, on a eu à Moustier-Sainte-Marie, on a eu notre premier salon du livre.
Bravo!
Avec plein d'écrivains. Et on pouvait découvrir leurs livres, les acheter.
Parler avec eux.
Tester.
Oui. parler avec eux ou les...
Ah ouais,
les...
C'est fabuleux, je pense qu'ils vont le refaire l'année prochaine.
Bah, c'est très bien.
C'est une bonne initiative, ça, et ça fait vivre encore différemment les livres. Merci Florence pour votre appel, votre témoignage. Et je vous assure, vous étiez très bien pour une première à la radio, il n'y a aucun souci. On va partir maintenant dans la Marne, chez Thérèse. Bonsoir Thérèse.
Une première aussi.
Ah bah, bienvenue Thérèse, bienvenue dans la grande famille des auditeurs d'On se dit tout et de France Bleu.
C'est ma famille préférée.
On va parler des romans feuilletons. Vous lisiez des histoires dans un hebdomadaire quand vous étiez plus jeune. Racontez-nous.
Oui, il y en avait un, deux, trois hebdomadaires et je les attendais toutes les semaines. Et là, j'avais les suivis de feuilletons. Et c'était très, très important pour moi. J'avais 12, 13 ans.
Ça parlait de quoi, vous vous souvenez ?
Des histoires sur la Suisse, une histoire de famille sur la Suisse, sur le lac. C'est vieux, ça déchauffe, j'ai plus tellement de mémoire. Mais il y en avait un dans chaque
numéro.
Oui. Et je les attendais tous les...
ça se suivait absolument, c'est-à-dire que si vous n'aviez...
Ah oui. Ouais. Je n'en aurais pas loupé un, hein. Non. Il ne fallait pas d'ailleurs.
C'est vrai qu'on a parlé des livres, on a parlé des livres audio, on a parlé des livres numériques. La presse aussi nous permet de lire. Alors bien sûr, il y a des articles, mais il y a aussi ces fameux romans feuilletons.
Alors il y en a encore, je crois qu'il y en a quand même beaucoup moins qu'il n'y en a eu.
On a des nouvelles maintenant.
Oui, beaucoup. Des nouvelles à certains moments de l'année, mais les feuilletons qui se suivent comme ça, c'est quand même tendance à disparaître. Je ne sais même pas si ça perdure, je n'en suis pas sûre, je suis pas historienne de la presse, mais ça a duré assez longtemps, hein. Ça a duré assez longtemps. Des magazines et même les quotidiens avaient leurs feuilletons aussi, hein, pendant très longtemps. Mais je crois que ça, c'est une pratique quand même en perte de vitesse.
Et vous lisez aussi des livres, Thérèse, vous qui avez adoré lire quand vous étiez plus jeune.
Voilà. Pardon.
Vous qui adoriez lire quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous lisez encore aujourd'hui?
Je lis encore aujourd'hui. Là, je suis tombée sur un livre, Les Brutes en blanc.
Ah, le livre de Martin Vinclair.
Exactement. Alors ça, je l'ai offert parce que je sors d'hôpital et c'est typique.
Oui. Ouais, c'est un livre qui a suscité
pas mal de valeur.
Ouais, c'est un livre que je pense qui parle à beaucoup de gens, qui pose des questions, qui pose des problèmes importants.
Qu'on rencontrait ça, parce que moi j'en ai offert, mais il y a des gens qui ont rencontré des problèmes aussi, comme moi. Et ils en ont été enchantés.
C'est un livre qui fait du bien, puisqu'on parlait des livres qui font du bien, Thérèse.
Ah oui, ah c'est sûr que ça fait du bien. Parce que ça vous remet en question de ce que vous avez... que vous ne savez pas si vous avez bien jugé. Et là, en lisant ce livre-là, je ne me suis pas trompée.
C'est sur la maltraitance médicale,
c'est ça, sur la manière dont les patients sont traités dans les hôpitaux, hein, mais pas seulement dans les hôpitaux, hein, dans les cabinets aussi, et sur les violences quotidiennes, quoi, qui ne sont pas forcément conscientes d'ailleurs de la part des soignants eux-mêmes, qui n'ont pas toujours la perception de la violence qui peut être vécue par le patient. Est-ce que je me trompe?
Encore aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans les hôpitaux.
Voilà.
Thérèse, voilà. Merci pour votre appel, pour votre témoignage, pour ce souvenir qui va peut-être rappeler à d'autres personnes, hein, les fameux romans feuilletons. Il y a les romans photos aussi qui perdurent dans un ou deux magazines. Oui. On les retrouve encore. Merci beaucoup Thérèse et merci pour vos nombreux appels. Vous avez été très nombreux ce soir. On aurait pu continuer l'émission encore pendant 2, 3, 4 heures. Mais malheureusement, il faut qu'on s'arrête à un moment donné.
Pour aller lire.
Pour aller lire et pour écouter Eric Bastien qui arrive après les infos de 22 heures.